Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
Pendant plusieurs semaines, la France a vécu à l'heure du confinement et dans la plupart des foyers, le temps consacré aux écrans a littéralement explosé. Télétravail, cours en ligne, consommation de séries, mais surtout et en tête réseaux sociaux et jeux vidéo. Notre dépendance n'a jamais été aussi forte. La consommation massive des écrans inquiète depuis longtemps le monde de la santé, car pour beaucoup d'utilisateurs, elle est devenue incontrôlable et s'apparente à une véritable addiction entraînant dette de sommeil, anxiété, troubles de l'attention, difficultés de mémorisation et même sur la consommation. Une étude de Santé Publique France a montré l'impact de la publicité sur la consommation de produits gras et sucrés pour les enfants. Nous en parlons avec nos invités aujourd'hui, Grégoire Borst, merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Elle nous rejoint au téléphone Anne-Juliette Séry. Merci à vous également. Vous êtes responsable de l'unité nutrition et activité physique à Santé à Publique France. Alors tout d'abord, Grégoire Borst, bonjour. Est-ce que l'épidémie de Covid-19 et le confinement a amplifié de façon inédite notre addiction au numérique, aux écrans?
Bonjour, c'est une bonne question, si ce n'est qu'en fait, il faut prendre un certain recul vis-à-vis de ça. Il y a eu clairement une augmentation de la consommation, alors je dirais que c'est attendu, hein. Parce que effectivement, on a été dans une période de confinement, que c'était une façon de pouvoir être connecté avec le monde extérieur. Maintenant, c'est très compliqué de parler d'addiction dans le domaine du numérique. L'addiction, elle se définit par un certain nombre de facteurs assez spécifiques, par exemple retrait par rapport à la vie sociale, un certain nombre d'autres choses comme ça, qu'on peut pas forcément plaquer sur le numérique. Alors il y a une addiction qui est reconnue par l'OMS, qui est l'addiction aux jeux vidéo, ouais. Mais elle touche entre 0,3 et 1% de la population. Donc il faut bien savoir ce dont on parle, qu'il y a une forte consommation d'écran. Oui, parler d'addiction, l'addiction, ça se définit par un certain nombre de facteurs qui sont pas forcément réunis pour parler d'addiction dans ce cadre-là.
Est-ce que ce phénomène était déjà alarmant pour vous avant le confinement, hein? Selon une étude publiée par Santé Publique France en janvier dernier, le fait d'exposer des enfants aux écrans le matin avant l'école augmente le risque qu'ils développent des troubles du langage.
Alors, c'est ce qui est sûr, c'est que on est dans un changement de société et d'environnement pour l'enfant. Ça, il faut tous en être très clair. Il y a eu effectivement une explosion du numérique ces dernières années, que ça pose légitimement des questions, hein, à la société, aux parents, aux enseignants. Deux choses. Alors, si on prend cette étude en particulier, il faut bien qu'on comprenne, il faut que les auditeurs comprennent qu'est-ce que c'est que cette étude. Cette étude, c'est de comparer finalement des enfants qui présentent des troubles du langage par rapport à des enfants qui n'ont pas de troubles du langage. Et on va regarder si finalement un certain nombre de facteurs peut expliquer ces troubles du langage, ou en tout cas peuvent être associés à ces troubles du langage. Et notamment, on a regardé des facteurs liés à la consommation d'écran, on va dire, de façon assez générale. Et on regarde un certain nombre de facteurs, on en regarde en fait 21 à peu près, et on trouve deux facteurs. Quand on corrige pour un certain nombre de biais statistiques, on trouve l'exposition aux écrans le matin et le fait de regarder l'écran avec les parents. Ouais. Alors on sait qu'effectivement, regarder les écrans avec les parents, c'est vrai que c'est un facteur important, et d'ailleurs on le dit, hein, souvent dans les conférences, on dit si vous pouvez regarder les écrans avec vos enfants, c'est important parce qu'ils sont exposés à du contenu et c'est bien qu'ils puissent en parler. Et c'est vrai que quand on parle d'un contenu, bah, par définition, on va développer des compétences langagières. Néanmoins, on peut quand même dire sur cette étude qu'il y a deux problématiques majeures. Le fait est qu'il y a plein d'autres facteurs qui ne sortent pas, qui ne semblent pas expliquer les troubles du langage. Et par exemple, le temps total passé devant les écrans. Mmh. Donc on voit bien que cette étude, elle est intéressante, mais qu'elle ne règle pas le problème. Et l'autre problématique qu'on a, c'est que ça, on est dans le domaine de la corrélation. C'est-à-dire qu'on montre qu'il y a un lien, mais on ne montre pas de causalité. Il est possible aussi, c'est pas forcément le cas, mais qu'il puisse y avoir des troubles du langage qui préexistent finalement à la consommation des écrans, et que c'est pas forcément le fait d'avoir consommé des écrans ou consommer du temps d'écran qui a produit l'émergence des troubles du langage.
Alors le terme d'écran est bien large, hein, cela va de la console au téléphone en passant par la télévision avec différents contenus, des niveaux de passivité différents. Ne faudrait-il pas les distinguer, Grégoire Borst ?
Ah si, clairement il faut les distinguer, c'est-à-dire qu'en fait ça n'a pas de sens de se poser la question des écrans, ni même on peut un peu distinguer les écrans passifs et les écrans actifs. L'écran passif, c'est en gros consommer de la télévision, les écrans actifs c'est plutôt consommer, être sur un smartphone, sur une tablette, mais en fait il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des différences de contenu C'est le contenu qui compte. Si vous consommez un contenu de qualité, si vous êtes devant, par exemple, une émission ludo-éducative, vous n'avez pas du tout les mêmes effets que si vous consommez du contenu violent, par exemple, à haute dose. Et on voit, par exemple, que même deux programmes ludo-éducatifs n'ont pas le même effet sur le développement du langage chez l'enfant. Typiquement, si vous mettez des enfants devant, vous prenez des enfants qui regardent pas ce type de programme, et puis vous avez deux groupes, un groupe qui va regarder Teletubbies et l'autre qui va regarder ils ont à peu près 2 ans et demi à 5 ans, et un autre qui va regarder Rue Sésame. Celui qui regarde Rue Sésame va augmenter son vocabulaire, celui qui regarde Teletubbies va diminuer son vocabulaire par rapport à des enfants qui regardent pas du tout ce type de programme. Mmh. Donc on voit bien que la question, elle est évidemment celle du contenu, mmh. elle est pas celle de l'écran. Donc effectivement, la vraie question, c'est de dire, exposez vos enfants à des contenus de qualité.
Mmh. Alors Anne-Juliette Serry, est-ce que les risques sont les mêmes, hein, les risques de surconsommation, que l'on soit parent ou enfant?
Alors nous, ce qu'on regarde plus particulièrement dans mon unité, en fait, c'est l'impact des écrans sur la sédentarité, hein, puisque ça, c'est une autre façon de voir aussi le problème de la consommation des écrans. Et on sait que, voilà, plus on a tendance à regarder les écrans, plus on a tendance à passer du temps assis, voire même allongé pour les ados. Et on sait que ce temps de sédentarité est néfaste pour la santé, et ça, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants. Hein. On sait par ailleurs que regarder la télé, hein, entraîne certains grignotages aussi, et on peut entraîner une prise de poids, donc ça c'est aussi des phénomènes qu'on étudie. Et puis il existe par ailleurs des risques qui sont bien spécifiques aux enfants, on en a déjà parlé brièvement, hein, sur notamment le développement cognitif, mais également sur le développement moteur des enfants, hein. On voit que finalement aujourd'hui on a des enfants qui sont en moins bonne santé cardiovasculaire et même des tout petits qui ont un développement moteur qui est moins important, donc ça c'est des phénomènes qu'on regarde. Et on sait également que la publicité auxquelles les enfants sont exposés pendant les camps d'écran ont un impact différents sur les enfants que sur les adultes, mais ça, on y reviendra un peu plus tard, je crois.
Oui. Est-ce que l'inquiétude et les angoisses liées à la crise sanitaire ont permis à beaucoup de trouver refuge derrière les écrans, Grégoire Borst?
Bah, je pense que, encore une fois, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on fait avec un écran. Il faut savoir, par exemple, que les adolescents, quand ils utilisent un réseau social, type, alors maintenant, je pense que moi, je suis un peu vieux, mais je crois que maintenant, ils utilisent essentiellement Snapchat, Insta et autres. Moi, je suis plutôt encore de la génération Facebook, qu'ils utilisent quasiment plus. Très honnêtement, leur réseau social, il est à 90% le réseau social qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Donc, évidemment qu'à ce moment-là, c'est pas un refuge, c'est une façon de garder du lien social. L'adolescence, il faut comprendre que c'est une période du développement cérébral qui est à peu près aussi influencée par l'environnement que la toute petite enfance, le 0 à 3 ans. Il y a une maturation cérébrale et une reconfiguration du cerveau complète à l'adolescence. Et effectivement, eux, ils sont très sensibles à l'environnement social. Donc, en fait, utiliser les réseaux sociaux pendant le confinement, ça a été une façon aussi de limiter leur angoisse, leur anxiété, parce qu'ils pouvaient continuer à être connectés, notamment avec leur cercle social. Donc voilà, c'est pas qu'un refuge, c'est une vraie utilisation, je dirais, intelligente dans ce cadre-là des réseaux sociaux. Évidemment, modulo les problématiques de harcèlement et autres qu'on peut observer sur ce type de réseau. Mais je veux dire, quand on les utilise de façon, je dirais, éthique, c'est vrai que ça peut être un vrai plus dans ce type de crise.
Vous, quelles sont les conséquences que vous voyez pour la santé après une surconsommation d'écran?
Je pense qu'on l'a bien dit, il y a une problématique sur la sédentarité. Donc ça, c'est effectivement établi. On a des méta-analyses, c'est-à-dire des études qui rassemblent l'ensemble des études qui ont pu être effectuées, qui sont assez convaincantes de ce point de vue-là. Il y a un rapport qui vient d'être fait par le Haut Comité à la Santé publique qui, de ce point de vue-là, est très clair de ce point de vue-là. Il y a un deuxième aspect sur lequel, effectivement, on a une problématique de surconsommation des écrans, c'est le sommeil. Ouais. Oui, on sait bien qu'effectivement, de la consommation d'écran et de l'exposition à des écrans une heure avant le coucher, notamment dans une pièce sombre, ça a un effet sur la qualité du sommeil, alors sur différents indices de la qualité du sommeil, notamment chez les adolescents. Donc voilà les deux oui. pans où on sait qu'effectivement il y a des données avérées. Sur le reste, je suis désolé, on peut dire plein de choses, mais pour l'instant, on n'a pas des données qui sont consolidées, par exemple sur le développement cognitif. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un effet absolument avérée de l'exposition aux écrans sur le développement cognitif de l'enfant. Il n'y a pas de données là-dessus qui soient complètement consolidées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Ouais, je dis juste qu'on n'a pas les données aujourd'hui pour dire ça.
Justement, on va en parler avec Serge Tisseron. Il est psychiatre et psychanalyste. Il répond à Salah Dingaku d'Africa Radio.
Ce problème des écrans est bien connu, notamment pour les jeunes enfants. C'est pour ça que, dès 2008, j'ai lancé le slogan « Pas d'écran avant 3 ans ». Pourquoi pas d'écran avant 3 ans ? Parce qu'on sait que l'enfant a besoin de temps, de tout son temps d'éveil, avant 3 ans, pour développer des compétences extrêmement importantes, qui seront importantes tout au long de sa vie, hein. Arriver à parler, échanger avec le langage, identifier les mimiques de son interlocuteur, voir son interlocuteur est triste ou joyeux, et puis être capable de se concentrer sur une tâche qu'il se choisit, et puis évidemment, apprendre à bouger dans l'espace, utiliser tous ses sens. Et le gros problème des écrans, c'est le temps de sommeil. Il y a une dizaine d'années, tous les experts avaient plutôt tendance à dire voilà, les écrans, ils entraînent un certain nombre de problèmes, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, de l'irritabilité. Or aujourd'hui, tout ça est regroupé sous l'étiquette, enfin sous la catégorie temps de sommeil. C'est-à-dire que si un enfant manque de sommeil, si un adulte manque de sommeil, il va avoir un rythme de travail ralenti, des problèmes scolaires ou des problèmes professionnels, il va avoir d'irritabilité, des problèmes relationnels, il va avoir des troubles alimentaires. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment le temps de sommeil, c'est la manière dont les écrans nous privent de sommeil qui est le problème principal. Nous nous couchons de plus en plus tard parce que nous sommes de plus en plus tard dans les écrans, mais on sait aussi que lorsqu'on est devant un écran avant d'aller au lit, eh bien, notre rythme de sommeil ne va pas être satisfaisant. Le soir, arrêter les écrans une demi-heure au moins avant d'aller se coucher pour avoir un sommeil satisfaisant.
C'était le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, interrogé par Salah Eddin Gakou, hein, dans le cadre de l'invité vidéo santé d'Africa Radio. Alors, on a parlé de troubles du sommeil, maintenant on évoque la consommation. Anne-Juliette Seri, vous avez montré dans une étude récente de Santé publique France l'impact de la publicité pour les enfants, l'impact des produits sucrés entraînant des cas d'obésité et de surpoids. Alors, quelles sont les principales conclusions de cette étude ?
Alors, tout d'abord, en fait, l'impact de la publicité sur les consommations alimentaires et les préférences alimentaires des enfants, ils n'ont pas été démontrés dans notre étude. Hein. Il y a des nombreuses études qui existent depuis les années 70 sur l'impact de la publicité. Donc ça a été démontré bien avant et c'est pas l'objet du rapport. Oui. Et différentes études montrent justement que la publicité a un impact sur les préférences alimentaires des enfants, mais aussi sur leur consommation alimentaire. Hein. Et donc là, c'est vraiment, on voit que quand les enfants sont exposés aux publicités, ils auront tendance à consommer davantage des produits gras, sucrés, salés. Donc ça, c'est bien démontré aujourd'hui. On sait aussi que la publicité va créer des préférences pour certaines marques, pour certains types de produits. Et on sait qu'elle va également entraîner une pression. Les enfants vont exercer davantage de pression sur les parents pour qu'ils achètent ce type de produits. Et puis on sait aussi que les enfants sont plus vulnérables à la publicité, hein, puisqu'ils ont une moindre capacité à discerner l'objectif du marketing alimentaire. Donc ça, c'est bien démontré. Notre étude aujourd'hui, elle portait sur voir un peu quel type de publicité auquel les enfants sont exposés en France, en fait. Et notre étude a montré que les enfants et les adolescents sont principalement exposés à des publicités pour des produits gras, sucrés, salés. En France, il existe un Nutri-Score, hein, qui est un score qui permet de voir la qualité nutritionnelle des. On a démontré que 53% des publicités qui sont vues à la télé sont des publicités pour des produits gras, sucrés, salés, donc des produits Nutri-Score D et E, et que la moitié de ces publicités, elles sont diffusées entre 19h et 22h, quand il y a plus de 20% des enfants et des adolescents qui sont devant la télé. Donc ça, c'était vraiment l'objet de notre étude, c'était calculer très précisément l'exposition des enfants à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés en France.
Alors justement, pourquoi le marketing alimentaire est-il un enjeu dans la lutte contre l'obésité ?
Alors, l'obésité, hein, c'est une maladie qui est multifactorielle, hein, mais on a souvent tendance à penser que faire de l'éducation, faire de l'information, ça va suffire pour changer les comportements. Aujourd'hui, il y a de nombreux auteurs qui montrent qu'on évolue dans un environnement qu'on appelle obésogène, c'est-à-dire où les sollicitations à consommer sont toujours plus nombreuses, c'est-à-dire qu'on est toujours plus soumis à l'incitation à consommer des calories. On le voit bien, maintenant, il y a des machines pour vendre de la vente à emporter sur les quais de gare, un peu partout dans la rue. Donc on est constamment sollicité pour consommer. Et puis le marketing alimentaire nous pousse aussi à consommer davantage. Donc c'est pour ça que c'est important de réguler le marketing alimentaire, que ça passe par la publicité, mais on peut aussi se poser la question de la régulation de tout ce qui est packaging produit, hein, qu'on sait bien que quand on fait des packagings de céréales avec des petites mascottes, les enfants ont plus tendance à vouloir acheter le produit pour la mascotte que pour le produit en lui-même.
Alors quelles sont vos préconisations pour limiter l'exposition des enfants à la publicité ?
Alors, nous, nos préconisations, elles rejoignent les préoccupations de l'OMS, hein, et elles rejoignent donc l'Organisation mondiale de la santé, ou les préoccupations de nombreuses instances internationales. On recommande vraiment de limiter l'exposition des enfants à la publicité. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de limiter l'exposition de cette publicité en télévision et à Internet, parce que notre étude a montré que 80% des investissements publicitaires sont faits sur ces deux canaux. Donc, notre recommandation, c'est cela. Et on recommande aussi d'interdire les publicités pour des produits de mauvaise qualité nutritionnelle aux heures où le plus grand nombre d'enfants sont devant la télé. Donc c'est au moins entre 19h et 22h. Et puis on peut aussi élargir l'interdiction à d'autres tranches horaires comme les tranches du matin ou les tranches de la fin d'après-midi qui sont également consommées par les enfants et les adolescents.
Alors Grégoire Bors, les médecins nomment un nouveau syndrome qui s'appelle EP2E pour exposition précoce et excessive aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, est-ce que vous reconnaissez aussi
Moi, je suis pas psychologue clinicien, donc je fais pas de clinique, je vois pas de patients. Moi, je vois l'ensemble de la variabilité des enfants dans les classes. Je peut pas en parler, peut-être que ça existe. Je vous dis encore une fois, la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on peut mettre en évidence des liens de corrélation, des relations entre le temps passé devant les écrans et un certain nombre de difficultés que pourrait rencontrer l'enfant dans le développement de certaines compétences. Ceci étant dit, la causalité n'est pas établie. Donc c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. Alors, pourquoi il n'y a pas de causalité ? Parce que pour établir de la causalité, il faudrait qu'on ait un pré-test. On évalue les enfants avant, de façon aléatoire, qu'on les expose ou non à des contenus, et qu'ensuite on les reteste. Vous comprenez bien que même d'un point de vue éthique, si on pense et si on suggère que certains contenus sont pas adaptés aux enfants, on peut pas faire ça. Donc la deuxième solution qu'on a, c'est qui ne donne pas un lien de causalité aussi fort, c'est de suivre les enfants dans le temps, c'est-à-dire d'avoir une approche longitudinale. Mais pour ça, il faut du temps. D'accord. Et donc en fait, ce recul-là, on l'a pas encore. Donc je pense que les cliniciens disent qu'ils ont un problème dans leur cabinet, je l'entends très bien, sauf que je leur rappelle que dans leur cabinet, ils viennent, par définition, viennent les gens qui viennent consulter et que ça n'est pas la population générale et que quand on parle de santé publique et d'épidémiologie, il faut voir si ça a une réalité dans la population générale. Et aujourd'hui, ça n'a pas de réalité par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui dans la population générale. Oui, il y a des difficultés spécifiques pour certains enfants, je le remets pas du tout en question, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut pas se généraliser avec est-ce qu'il y a un problème de santé publique sur les écrans ? Ça n'est pas sûr.
Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas s'alarmer suite à la publication de certaines études qui ne sont pas assez représentatives pour vous.
Je pense
de l'impact des écrans sur les enfants et les adultes.
Je pense qu'il faut prendre un certain recul par rapport à ça. Il y a aussi il y a un certain nombre d'études qui montrent par exemple des effets positifs de jouer à certains jeux vidéo. Et je rappelle simplement que Serge Tisseron a effectivement permis de commencer à réfléchir sur cette problématique de l'exposition très précoce aux écrans. Je rappelle juste que l'Académie de pédiatrie américaine, l'interdiction, elle est à 18 mois. Donc moi, il faut juste qu'on m'explique pourquoi en France c'est à 3 ans et 18 mois aux États-Unis. Donc comme ils ont quand même des cohortes un peu plus grandes, peut-être que l'interdiction devrait porter sur 18 mois. Je dis aussi simplement que on ne peut pas pasteuriser l'environnement de l'enfant. Des écrans, il y en a partout. Et dire aux parents, n'exposez pas du tout vos enfants avant 3 ans aux écrans, c'est juste pas possible. Donc on les met dans une situation d'échec direct. Donc je pense qu'au contraire, ce qu'il faut dire aux parents, c'est ne laissez pas vos enfants seuls avec les écrans. Dans la mesure du possible, regardez les contenus avec vos enfants et limitez le temps d'exposition aux écrans le plus possible. Bon, je rappelle que dans la cohorte ELF, le temps d'exposition des enfants de 2 ans et demi, c'est 6h30 par semaine. D'accord ? C'est pas 6h30 par jour. Donc il faut aussi remettre un peu l'église au milieu de la place du village. Je pense qu'il y a aussi tout un discours très anxiogène autour des écrans et qu'il faut être vigilant. Et je pense qu'effectivement, Santé publique France doit avoir des indicateurs pour effectivement se dire « Oh là là, là, il y a un souci ». Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut prendre un certain recul par rapport à ça. Il faut les utiliser intelligemment, ça c'est clair.
Alors justement, pour appuyer à ce que vous venez de dire, que dire aux parents qui nous écoutent, dont les enfants sont au quotidien gavés de numérique, et des enfants qui connaissent déjà des difficultés de concentration, de troubles du langage ou des retards d'apprentissage ?
Alors, je pense que ça, c'est effectivement une très bonne question. On sait que certains enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, ça veut dire que leur cerveau se développe un peu différemment des autres enfants, et ça fait émerger certains troubles. Alors, vous avez beaucoup entendu parler des troubles des apprentissages, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, trouble TDAH, qui est le trouble de l'hyperactivité et de l'attention. C'est vrai que chez ces enfants, il peut y avoir parfois surconsommation d'écran, parce que c'est aussi un refuge. C'est que ça leur permet effectivement de se réfugier dans un endroit qui leur permet effectivement de gérer, par exemple, certaines parties de leur trouble. Il faut aussi savoir que, par exemple, au laboratoire, il y a certaines études qui montrent, notamment en Italie, que quand vous utilisez des jeux vidéo, vous pouvez améliorer les compétences de lecture des enfants dyslexiques en les faisant jouer à des jeux vidéo d'action. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire pas d'écran, c'est de dire quel type de contenu sur quels écrans. Et ça, je dirais que c'est le vrai enjeu de ce qu'on a le vrai défi qu'on a à relever, c'est comment on peut donner des informations aux parents sur la qualité des contenus qu'ils peuvent utiliser avec leurs enfants.
Alors, on parle des enfants, mais il y a aussi les parents. Anne-Juliette Séry, quelles sont les mesures préconisées par Santé publique France pour l'accompagnement à l'utilisation des écrans par les parents ?
En fait, je crois que ça vient vraiment d'être très bien dit par votre invité. Hein. On est vraiment dans des recommandations. On évite à tout prix l'injonction. Hein. Ça a été très bien dit. Donc, en fait, on recommande en effet de limiter le plus possible l'utilisation des écrans ou l'exposition des écrans. Alors, la recommandation en France, c'est avant 3 ans, hein, notamment, et de privilégier l'interactivité avec et l'interaction plutôt, excusez-moi, avec les tout petits. Et puis après, on recommande pour les plus grands de passer du temps avec les enfants devant les écrans, c'est-à-dire que ne pas les laisser seuls. Et puis aussi, après, avec les adolescents qui sont très consommateurs, on recommande d'échanger avec les adolescents sur ce qu'ils regardent pour les aider à comprendre, pour les aider à décrypter. Donc voilà, l'utilisation des écrans est possible, mais dans l'interaction, si j'ai envie de résumer.
Alors, Grégoire Bors, comment se libérer, ou en tout cas essayer de limiter cette emprise numérique qui impacte nos vies ?
Je pense qu'effectivement, il faut quand même prendre conscience que le cerveau d'un enfant est en développement. Donc, il y a des choses que nous, on est capable de faire, que lui a beaucoup plus de mal à faire. Typiquement, il a moins de capacité d'autorégulation face à un certain nombre d'automatismes que nous. Ça veut dire qu'effectivement, il a peut-être plus de mal de se décrocher d'un écran, surtout que il y a un certain nombre de choses qu'il fait sur les écrans qui sont des jeux, et que jouer pour un enfant, c'est assez, je dirais, fondamental pour son développement aussi. Qu'il faut effectivement fixer des limites, et je pense que c'est aux parents de le faire. Des limites, effectivement, de temps horaire par jour.
Combien de temps, par exemple ?
Je vais vous dire, ça dépend évidemment de l'âge des enfants, je veux dire, mais il faut essayer de rester dans, si c'est des très petits, il faut vraiment limiter à quelques dizaines de minutes par jour. Quand ils sont un peu plus âgés, on voit bien que chez l'adolescent, de toute façon, c'est pas possible, vous allez pas pouvoir limiter, je veux dire, un adolescent, il a son smartphone, il est dehors, donc vous allez pas pouvoir limiter indéfiniment son temps d'écran. Par contre, c'est vrai que ce qu'il faut réussir peut-être à leur donner, c'est une évaluation du temps qu'ils passent réellement devant les écrans, parce qu'ils n'arrivent pas à évaluer ça, parce qu'ils passent de l'écran de la tablette, au smartphone, à la télévision. Donc peut-être la première chose que peuvent faire les parents, c'est déjà calculer avec chacun des enfants, avec leurs enfants, le temps passé réellement devant l'écran, et dire ensuite, ça c'est trop, donc on va limiter un peu, on va dire, dans la journée tu fais pas smartphone, tablette et télé, peut-être qu'un jour tu vas juste faire tablette et télé, l'autre jour tu vas faire du smartphone mais tu feras pas de la tablette. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, effectivement, donner ça. Et d'ailleurs, il y a sur le site de l'Académie de pédiatrie américaine, il y a une petite application qui permet justement de faire ça, de calculer réellement le temps d'écran. Et puis il faut trouver des plages où il n'y a pas d'écran. Et typiquement, le repas, c'est une plage où il y a de l'interaction sociale. Comme disait très bien votre invité Anne-Juliette Séry, il faut des temps d'interaction pour l'enfant. Il a besoin d'être en interaction sociale. D'ailleurs, on le voit bien, vous voyez bien, quand on parle avec quelqu'un qui a un masque, c'est bizarre, en fait, parce qu'on a besoin d'être en interaction sociale et de voir le visage de la personne. Donc, si on est tous sur nos écrans, on voit bien qu'on limite les interactions sociales. Et ça, c'est vrai que c'est critique pour le développement de l'enfant. Et je dirais une chose, dire aussi aux parents, faites attention au temps que vous passez sur les écrans. Quand vous êtes avec vos enfants, c'est vrai qu'on le sous-évalue, et pour l'instant, on n'a pas forcément de données là-dessus, mais il est très probable que ça joue aussi sur les effets qu'on peut observer sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Ça veut dire que vous avez besoin d'être en interaction avec vos enfants. Je veux dire, c'est ça la réalité. Ouais. C'est-à-dire que nous aussi, on passe notre temps sur nos écrans. Et donc, on a bon dos d'aller dire à nos enfants arrête d'utiliser tes écrans. Donc, peut-être aussi qu'il faut réguler sa consommation d'écran quand on est en présence de ses enfants.
Alors, nous sommes bombardés quotidiennement par des dizaines, voire des centaines de notifications, d'infos, de vidéos qui ciblent parfaitement nos goûts et nos envies. Comment ne pas tomber dans le piège, Grégoire Borst ? Là, il y a un risque.
Je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une vraie... alors, j'entends très bien ce qu'on dit quand on dit faire de l'information, c'est pas suffisant. C'est vrai. Je crois qu'il faut qu'on explique aux gens comment fonctionne leur cerveau, quels sont effectivement les mécanismes qui sont utilisés par l'industrie du marketing pour amener les gens à surconsommer. Et donc, il faut qu'on en appelle à ce qu'on appelle en psychologie la métacognition, c'est-à-dire la connaissance des processus qui sont impliqués dans nos comportements. Et je pense que c'est vrai chez les adultes et chez les enfants. Il ne faut pas oublier que parler de l'écran, il faut aussi en parler avec l'enfant. Ce n'est pas simplement lui dire « tu dois consommer 15 minutes par jour », c'est de lui expliquer qu'est-ce qui se passe quand son cerveau est face à un écran, quelles pourraient être les conséquences à long terme, parce qu'effectivement, la vraie question, c'est quand je regarde l'écran aujourd'hui, est-ce que ça a un effet sur mon développement dans 10 ans ? C'est aussi ça le vrai enjeu. Et là-dessus, on n'a pas vraiment de données. Donc l'idée, c'est de dire consommation modérée, mais aussi en parler avec ses enfants, parler des contenus, mais aussi parler de son cerveau face à l'écran.
Anne-Juliette Séry, est-ce que plus les parents vont consommer des écrans, vont être exposés aux écrans, cela aura une conséquence aussi pour les enfants ?
Alors là, je ne peux pas me prononcer, moi je ne connais pas les études sur ce sujet-là, mais c'est vrai que je pense que c'est très important de dire aussi que en effet, l'usage, en général, on sait que l'attitude des parents peut avoir un impact sur les enfants. Donc, mais ça, c'est vrai pour les écrans et c'est vrai globalement pour n'importe quel comportement. Moi qui travaille sur l'activité physique, on sait que les parents qui sont actifs et qui vont spontanément se déplacer à pied, faire du vélo... ça va avoir un impact sur l'attitude positive des enfants sur ce genre d'ordre de pratique. J'aimerais également ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on a peu parlé de la notion de rupture de sédentarité. Et nous, dans les études qu'on a faites récemment, notamment pendant le confinement, on a vu que les adultes, assez spontanément, même s'ils sont devant des écrans ou s'ils restent assis, c'est vraiment passé pendant le confinement, ont un réflexe de se lever régulièrement. Ils en ressentent le besoin. Alors que finalement, ce besoin de bouger est beaucoup moins prononcé chez les enfants et chez les adolescents. Donc ils peuvent passer des heures assis ou allongés sans ressentir ce besoin finalement de bouger. Et on sait que ça, c'est des impacts sur la santé. Donc ça, c'est un point également qui nous semble vraiment important sur lequel il faut qu'on travaille, cette notion de rupture de sédentarité, faire des pauses.
D'accord. Alors vous avez donné quelques pistes aux parents qui nous écoutent, Grégoire Borst, voir avec l'enfant le temps passé devant les écrans. Quelles sont les dernières recommandations que vous avez envie de donner aux parents qui nous écoutent ce matin ?
J'ai envie de leur dire, un enfant, ça a besoin de faire plein d'activités différentes. Donc s'il passe son temps devant un écran, c'est pas forcément que l'écran va produire quelque chose de négatif chez votre enfant, mais c'est simplement que par définition, pour se développer, il faut faire des activités différentes. Il faut se confronter au monde de façon un peu différente. Donc le vrai enjeu, à mon avis, pour les parents, c'est de dire, le développement cognitif et socio-émotionnel de votre enfant, il passe par l'interaction que vous avez avec lui. Donc évitez d'être tout le temps sur votre écran quand vous êtes en présence de vos enfants, première chose. Même si je sais qu'il y a des contextes très différents en fonction des familles, si vous venez d'une famille très défavorisée, si vous êtes dans une famille monoparentale, parfois on peut comprendre aussi pourquoi les enfants passent du temps devant les écrans. Deuxième chose, c'est faites-leur faire plein d'activités différentes. Et troisième chose, c'est parler avec eux. C'est-à-dire parler-leur très librement de ce qu'ils font sur un écran, quel type de contenu auquel ils ont été exposés, et leur dire effectivement, simplement leur faire un peu toucher du doigt quels peuvent être les effets de passer beaucoup de temps devant un écran, par exemple sur la sédentarité, je pense que c'est important de leur dire. Ouais. Mais souvent, on fait des campagnes sans en parler directement à l'enfant. On a besoin de parler aux enfants, et je vous assure qu'ils peuvent comprendre des choses extrêmement complexes. Nous, on fait des cours aux enfants sur le cerveau de maternelle. Donc, je veux dire, les enfants de maternelle sont capables de comprendre comment fonctionne le cerveau, ils comprennent même des choses extrêmement complexes sur le cerveau. Donc, n'hésitez pas à en parler avec eux, même de leur parler de choses complexes.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. C'était la dernière de la saison. Nadir Djennad, merci beaucoup d'avoir préparé cette émission. On se retrouve la saison prochaine pour d'autres thématiques santé. Ce sera à partir du mois de septembre. Merci beaucoup à vous et très bonne journée sur la radio africaine.
Merci.
Merci.